Sur un écran géant, Fred Astaire dansait avec trois silhouettes. Elle ne parvenait pas à le suivre et perdait bientôt le rythme. Pour finir, elle jetait l'éponge en faisant ce geste typiquement américain de la main gauche signifiant « Oh, pfff !» avant de quitter la scène. Astaire continuait de danser seule. Je compris que les trois silhouettes étaient également Fred Astaire. L'avais-je perçu, enfant ? Personne ne s'appuyait sur l'air de cette façon. Aucun autre danseur ne fléchissait les genoux comme lui. Mes pieds tapèrent sur le siège devant moi en rythme avec la musique. Une merveilleuse légèreté envahit mon corps, un bonheur ridicule semblant surgir de nulle part. J'avais perdu mon travail, une certaine vision de ma vie, mon intimité. Et pourtant, tout cela paraissait insignifiant comparé à cette joie que j'éprouvais à regarder la danse et à me laisser pénétrer par la précision rythmique. Je sentis que je perdais conscience de l'endroit où je me trouvais, que je m'élevais au-dessus de mon corps, observant ma propre existence de très loin, comme si je planais. Cela me rappela la façon dont les gens décrivent leurs expériences avec les drogues hallucinogènes. J'eus une vision d'ensemble de toutes mes années. Non pas défilant les unes après les autres, expérience après expérience, pour former quelque chose de substantiel, tout au contraire. J'eus une révélation. J'avais toujours essayé de m'attacher à l'éclat d'autrui. Je n'avais jamais produit ma propre lumière. J'eus le sentiment d'être une sorte d'ombre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Depuis son enfance dans un quartier populaire et métissé du Londres des années 70, les comédies musicales ont représenté, pour celle qui parle, le monde idéal dans lequel elle a toujours rêvé d'évoluer. Elle, enfant unique d'un père anglais aimant et d'une mère jamaïcaine bien peu maternelle, qui veut à tout prix s'élever intellectuellement et socialement. La narratrice, jamais nommée, du dernier roman de Zadie Smith, Swing Time, va tout miser sur ses cours de danse pour tenter de devenir, sinon la blonde Ginger Rogers, du moins la superbe Jenny Le Gon, dont les duos avec Bojangles la fascinent. Mais c'est sa meilleure amie, Tracy, qui est la plus douée, et peu à peu, confrontée aux injonctions maternelles et au talent écrasant de Tracy, elle va s'effacer derrière les autres et penser sa vie au lieu de la vivre. Avec Swing Time, son cinquième roman paru chez Gallimard, traduit par Emmanuel et Philippe Aronson, Zadie Smith nous peint la trajectoire d'une jeune femme incapable de s'émanciper des destins que d'autres qu'elle admire et qu'elle aime lui intiment d'embrasser. D'abord sa mère, qui voit en la politique la porte de sortie et la revanche sur une enfance misérable. Son amie Tracy, pour qui seule la célébrité à l'écran justifie tous les sacrifices et surtout tous les mensonges. Et puis Aimé, la pop star internationale, qui la prend à son service et exige une adhésion totale, mais surtout heureuse, à son mode de vie. Roman foisonnant, insolent et perspicace, qui ne tranche jamais les questions qu'il aborde et nous laisse, à la dernière page, devant le mystère intact de ces beaux personnages. Bonsoir Zadie Smith.
Bonsoir.
La narratrice de votre livre Swing Time a comme vous un père anglais, une mère jamaïcaine. Elle vit dans le même quartier où vous avez grandi. Donc vous y avez mis beaucoup de vos espérances et de vos propres apprentissages. Alors ces comédies musicales qui sont la colonne vertébrale de la vie de cette héroïne, qu'est-ce que ça représente pour vous, la comédie musicale, la danse, le rythme ?
Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre était assez voyeuriste. Je voulais essayer d'imaginer une vie dans laquelle j'aurais essayé de poursuivre des rêves que j'ai abandonnés dans la vraie vie. C'était aussi simple que ça. Je me suis demandé quelle autre vie j'aurais pu vivre si je n'avais pas été si investie dans les livres si jeune. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé ces films. Mais j'ai laissé tout ça de côté relativement jeune et me suis préoccupée principalement de lire et d'écrire. Donc c'est presque comme être actrice, prendre certains aspects de vous-même et les suivre dans une direction que vous n'avez jamais eu l'occasion de suivre dans la vraie vie.
Alors cette narratrice, dans votre livre Swing Times, Zadie Smith, elle n'a pas de nom, mais elle s'exprime à la première personne. C'est une nouveauté dans votre écriture de parler à la première personne. Et pourquoi ne pas lui avoir donné de nom? Elle dit, on l'a entendu au début, qu'elle n'est qu'une ombre. Est-ce que c'était pour ça qu'elle n'avait même pas droit à un prénom?
There's a lovely line by E.M. Sheeran.
Il y a une citation formidable de E.M. Sheeran qui a vécu ici à Paris. Et en fait, il cite un autre écrivain qui lui est tchèque, Joseph Pla. Il dit, nous ne sommes rien, mais c'est difficile à admettre. Et ça m'émeut toujours, ce genre de pensée existentialiste, je suppose.
There is no access in existentialist thought for
dans ce type de pensée, elles ne sont pas accessibles à des gens comme moi parce que nous avons toujours une identité. C'est la définition du fait d'être noir, en fait. Au-delà de tout le reste, on a toujours une identité. L'existentialisme, c'est quelque chose que peuvent se permettre des gens qui ont l'impression d'être libres de toute forme d'identité particulière. Et donc, ils peuvent s'adonner à cette idée très sérieuse qui est de réfléchir à ce que c'est d'être humain, d'avoir un nom, d'être une personne. Quand j'ai écrit ceux du Nord-Ouest, c'était une des premières idées que j'ai eues, en fait. C'était à quoi est-ce que ça ressemblerait un roman existentialiste noir. Donc ça faisait partie du point de départ, de cet instinct, et puis le fait de vivre en Amérique aujourd'hui, tout simplement. Mon mari se plaint souvent. Nick dit toujours, je suis aux États-Unis, je suis un homme blanc, tout le monde n'arrête pas de me le signaler.
Et
je lui dis, mais oui, donc maintenant tu vois ce que ça veut dire, en fait. Maintenant tu comprends ce que ça signifie, c'est ça que ça veut dire, avoir une identité, c'est épuisant. Donc j'aime l'idée de créer un personnage qui par essence est en quelque sorte une créature existentialiste qui est projetée dans le monde et la seule chose à partir de laquelle on peut la juger, ce sont ses actes.
Oui, mais cette créature existentialiste, Zadie Smith, vous l'écrivez, pour les blanches, elle est noire, mais pour les noirs, elle est blanche, puisque c'est une métisse. Et donc, en fait, elle n'a même pas cette essence-là. Elle n'est jamais à sa place. Et en fait, c'est ce qui explique son caractère. Elle ne se sent jamais à sa place.
C'est sans doute vrai. En tout cas, dans les années 80, les gens s'inquiétaient beaucoup sur la question de l'identité des métis. C'était une source d'angoisse. Les gens me demandaient tout le temps à mes parents, pourquoi est-ce que vous faites ça? Êtes-vous certain? Elle va être tellement perdue. Mais les métis, en fait, ne font qu'exprimer par une forme visuelle une vérité qui est vraie pour tous, qui est que la vie est contingence, la naissance est un accident, vous êtes le mélange de deux personnes, c'est vrai pour tout le monde. Quand on est métisse, en fait, ça rend ce fait évident.
Zadie Smith, votre héroïne, elle semble être un miroir des désirs de ceux qui l'entourent. Sa mère veut l'émanciper, lui répète qu'elle doit être forte, indépendante, faire des études, éventuellement faire de la politique. Son amie Tracy ne peut la voir que comme une danseuse, alors qu'elle se sent mal dans cet exercice, elle préférerait chanter. Et vis-à-vis de son père, elle sent qu'elle devrait être plus dans l'idée que le père se fait d'une fille, d'une épouse éventuellement. Mais elle, on ne sait jamais ce qui est vraiment important pour elle. Elle passe d'un désir à l'autre. Où est sa personnalité à elle?
J'imagine que c'est quelque chose de très personnel, mais je ne sais pas vraiment ce que les gens veulent dire quand ils parlent de leur personnalité. C'est pas quelque chose que j'ai jamais ressenti de façon très forte. Il y a des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas, mais la sensibilité a toujours signifié beaucoup plus pour moi. J'ai des goûts. Mais ils changent, ils sont malléables. J'imagine que je me vois avec une forme de flexibilité, de souplesse dans la personnalité. Et je suppose que je pense aussi, quand je pense aux gens dont je me sens les plus proches, les écrivains, les artistes, c'est peut-être quelque chose que nous avons en commun, en fait. Un sentiment assez lâche de notre personnalité. Donc, je me dis toujours que la personnalité, c'est quelque chose d'assez limité quand il s'agit de définir quelqu'un. Mais je m'intéresse aux gens qui ne se voient pas comme des faits, des essences qui se sentent souples, adaptables.
En même temps, cette héroïne qui n'a pas de prénom, elle se révèle à elle et aux autres quand elle chante et non pas quand elle danse. On va écouter une lecture d'une page de votre livre, Zadie Smith.
À 11h15, juste après le cours de danse classique, au milieu de notre première pause, Mr. Booth pénétrait dans la salle avec à la main une grosse sacoche noire semblable à celle qu'utilisaient autrefois les médecins de campagne. Et dans cette sacoche, il transportait ses partitions. Si j'étais libre, c'est-à-dire si je pouvais échapper à Tracy, je me précipitais vers lui, le suivais tandis qu'il s'approchait lentement du piano, puis me positionnais comme les filles que j'avais vues à l'écran, et lui demandais de jouer All of Me, Autumn in New York ou 42e rue. Et je chantais. Doucement, pour ne pas couvrir le son du piano si je me sentais timide, et un peu plus fort dans le cas contraire. Parfois, certains parents qui fumaient à l'extérieur sous les cerisiers rentraient pour écouter. Et les filles qui se préparaient pour le cours suivant, enfilant leurs collants, lassant leurs chaussons, s'interrompaient et se tournaient pour me regarder. Je me rendis compte que ma voix, quand je ne laissais pas délibérément le piano la couvrir, avait quelque chose de charismatique. Elle attirait les gens. Il ne s'agissait pas d'un don technique, j'avais une toute petite tessiture. Cela relevait de l'émotion. Je parvenais à exprimer très clairement, à transmettre ce que je ressentais. Je rendais les chansons tristes très tristes et les chansons joyeuses très joyeuses. Plus tard, pendant nos galas de fin d'année, j'appris à utiliser ma voix pour brouiller les pistes, à l'instar de certains magiciens qui vous font regarder leur bouche alors que vous devriez observer leurs mains. Mais Tracy ne se laissait pas berner. Je la voyais en quittant la scène debout en coulisses, les bras croisés et le nez en l'air. Même si elle raflait toujours la mise, et même si le tableau en liège dans la cuisine de sa mère coulait sous les médailles d'or, elle n'était jamais satisfaite. Elle voulait être première dans ma catégorie, comédie musicale, aussi bien qu'elle chantât comme une casserole. C'était difficile à comprendre. Je pensais vraiment que si j'avais pu danser comme Tracy, je n'aurais jamais rien souhaité d'autre au monde. Certaines filles avaient le rythme dans les bras et les jambes, d'autres l'avaient dans les hanches ou dans leurs petits postérieurs, mais Tracy l'avait dans chacun de ses ligaments, probablement dans chacune de ses cellules. Elle exécutait le moindre mouvement avec une justesse et une précision dont n'importe quelle gamine aurait rêvé. Son corps se calait sur tous les tempos, si complexes fussent-ils. À la rigueur, on pouvait parfois lui reprocher d'être trop scrupuleuse, pas assez inspirée ou de manquer d'âme. Mais il aurait fallu être fou pour critiquer sa technique. J'étais... Je suis en admiration devant la technique de Tracy. Elle faisait toujours tout au bon moment.
Zadie Smith, cette scène de votre livre, Swing Time, intervient au début. Les deux amies, les deux filles, ont à peine 10 ans. Elles vont au cours de danse. Mais on sent que la narratrice a ce talent exceptionnel, et elle le reconnaît elle-même, de chanter. Et pourtant, elle est tellement fascinée par le talent pour la danse de Tracy qu'elle va oublier qu'elle a ce don en elle. On ne peut pas s'empêcher de penser, en vous lisant au livre d'Elena Ferrante sur l'histoire de ses deux amies italiennes à Naples, comme si les amitiés à l'âge d'enfant étaient des choses qui décidaient finalement beaucoup plus que d'autres choses, même que les parents, de ce que l'on va choisir de faire dans sa vie d'adulte.
Dans ma vie, en tout cas, ça a été le cas. Je ne me souviens pas avoir jamais considéré que mes parents jouaient un rôle important dans ma vie. J'avais des frères et sœurs, je vivais dans un quartier où il y avait beaucoup d'enfants qui traînaient ensemble. Et c'était ça le plus important. Et encore aujourd'hui, je suis toujours frappée par le nombre de parents qui surestiment l'influence qu'ils ont sur leurs enfants. Je le vois avec moi, mon frère, la manière dont nous parlons, nous nous habillons, jusqu'à la classe peut-être à laquelle nous semblons appartenir aux yeux des autres, c'est déterminé par les amitiés que nous avons eues il y a des années. L'un de mes frères a passé beaucoup de temps dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le ghetto, ce n'est pas mon cas, et quand on nous voit ensemble aujourd'hui, on a l'impression qu'on vient de deux familles différentes. Donc je pense que l'influence des parents est souvent surestimée. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la manière dont les petites filles grandissent. Le système de comparaison entre elles est très intense. Et je pense que la dimension négative, c'est que, et je le vois avec ma petite fille maintenant, c'est que quand vous êtes une petite fille et que vous regardez la culture qui vous est livrée comme étant le monde, une des leçons que vous apprenez le plus tôt, bien au-delà de la question de savoir si les filles sont jolies, etc., est une leçon qui concerne l'individu par rapport au groupe. On voit l'idée, par exemple, d'un homme isolé, par exemple sur la télé italienne, comme je le faisais il y a juste quelques jours. L'homme est le personnage individuel, tandis que la femme vient par série, en fait, par groupe. Et donc, cette différence est extrêmement importante et elle se marque très très tôt, elle est imprimée dans nos esprits très tôt. Et ça rend très difficile de la contredire. La dimension peut-être plus positive que j'ai essayé de mettre en évidence dans ce livre, c'est que ce que la culture représente comme étant le féminin et cette façon de se comparer de façon obsessionnelle, c'est aussi une forme d'empathie assez radicale. On peut le voir comme ça aussi. L'exemple que je donne toujours, je le vois avec mes propres enfants, c'est que si, par exemple, j'extrais ma fille d'une situation sociale, ses amis, filles, ont toujours envie de savoir où elle va, ce qu'elle y fera, à quelle heure elle ira se coucher, qu'est-ce qu'elle va manger ce soir. En fait, évidemment, elle compare ce que ma fille va faire avec ce qu'elles vont faire, elle. Mais si je viens chercher mon petit garçon dans une situation similaire, les autres garçons lui disent simplement au revoir. Ils n'y réfléchissent pas davantage. Une fois que le garçon est sorti de leur vue, il n'existe plus, c'est pas intéressant. Il est là pour jouer avec eux quand il est là, mais quand il est parti, on s'en fiche de ce qu'il fait. Donc il y a cette capacité des femmes à se projeter dans la vie des autres. Qu'on a tendance à le ridiculiser. Les femmes préfèrent les feuilletons à l'eau de rose, se préoccupent toujours de la vie des autres. Mais c'est extrêmement utile quand on est romancier.
I've danced with you. I'm never going to dance again.
I'm left without a penny, the wolf was discreet. He left me my feet and sole. I put them down on anything but the La Belle, the perfectly swell romance. Never gonna dance, never gonna dance, only gonna love, never gonna dance. Have I a heart that acts like a heart, or is it a crazy drum beating the weird tattoos of the St. Louis blues? Have I two eyes to see your two eyes, or see myself on my toes dancing to radio for Major Edward Bowes? No, I'm left without a penny, the wolf was discreet. He left me my feet and soul. I put them down on anything but the La Belle, a perfectly swell romance. Never gonna dance, only gonna love you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Qu'attend-on de sa mère lorsqu'on est enfant ? Qu'elle nous soit entièrement soumise. Oh, c'est très beau et raisonnable et respectable de dire qu'une femme est en droit d'avoir une vie, des ambitions, des besoins et ainsi de suite. C'est ce que j'ai toujours exigé moi-même. Mais en tant qu'enfant, non. La vérité, c'est qu'il s'agit d'une guerre d'usure. La rationalité n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Ce qu'on veut de sa mère, c'est qu'elle admette une bonne fois pour toutes qu'elle est notre mère et seulement notre mère. et que son combat avec le reste de l'existence est terminé. Il faut qu'elle dépose les armes et se consacre à nous. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est vraiment la guerre. Et c'était la guerre entre ma mère et moi. Ce n'est qu'une fois adulte que je finis par admirer véritablement, en particulier durant les dernières et douloureuses années de sa vie, les efforts considérables qu'elle avait déployés pour se faire une place dans ce monde. Lorsque j'étais jeune, son refus de se soumettre à moi me troublait et me blessait, surtout parce que je ne percevais aucune des raisons habituelles de refus. J'étais sa fille unique et elle ne travaillait pas à l'époque, et elle parlait à peine au reste de sa famille. À mes yeux, elle avait tout son temps, et pour autant, je ne parvenais pas à obtenir son entière soumission. Du plus loin que je me souvienne, elle me faisait l'effet d'une femme se préparant à fuir, me fuir, fuir justement son rôle de mère. J'avais de la peine pour mon père. Il était encore relativement jeune, il l'aimait, il voulait d'autres enfants. C'était pour eux un sujet de discorde quotidien. Mais sur ce point, comme sur tous les autres, ma mère se montrait inflexible. Sa mère avait donné naissance à 7 enfants, sa grand-mère à 11, elle refusait cette vie-là. Elle croyait que mon père voulait plus d'enfants pour la piéger, et elle avait raison sur le fond. Sauf que « piège » dans ce cas n'était qu'un autre terme pour « amour ». Comme il l'aimait. Plus qu'elle ne l'imaginait ou ne souhaitait l'imaginer. Elle vivait dans son propre paysage onirique, convaincue que chacun dans son entourage ressentait les choses précisément comme elle. Ainsi, lorsqu'elle commença d'abord doucement, puis de plus en plus rapidement à dépasser mon père, tant sur le plan intellectuel que personnel, elle s'attendit bien entendu à ce qu'il connaisse une évolution concomitante. Mais il continua comme avant.
Zadie Smith, c'est une mère qui n'est peut-être pas très maternelle, mais qui se bat pour que son enfant, sa fille, suive une voie qu'elle estime être celle de l'émancipation. Et quand cet enfant la regarde, elle est blessée. Quand elle devient adulte, elle la comprend mieux. Et en même temps, vous allez abîmer le portrait de cette femme superbe qui finalement, à la fin de sa vie, va se mettre en ménage avec un charlatan et va devenir finalement une femme un peu comme les autres. Pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de la rendre plus humaine, mais beaucoup plus fragile ?
I understand the idea that...
Je comprends l'idée qu'elle, qu'on puisse l'avoir comme moins maternelle, mais je crois qu'il faut revoir cette idée de ce que c'est que d'être maternelle. Elle donne à sa fille d'autres outils que certaines mères ne donnent à leur fille. Quand on grandit avec tel ou tel type de mère, on a le sentiment que c'est le seul qui existe au monde, puisqu'en tant qu'enfant, nous grandissons tous dans une forme de dictature, et puis un jour, on passe la tête par-dessus la barrière et on réalise en fait qu'il y a d'autres régimes parentaux. Quand j'ai commencé à aller dans les maisons des autres enfants, je me suis familiarisée avec d'autres façons d'être mère. Celles qui sont très démonstratives, qui essaient de jouer le rôle et de montrer à quel point elles sacrifient. Je ne termine pas mon plat, c'est à toi de le manger. C'est ce qui, traditionnellement, est l'image du sentiment maternel. Mais les conséquences sont assez intéressantes. Les petits garçons qui sont élevés comme ça ont une image assez bizarre de ce qu'est une femme et de ce qu'elle est censée faire. Et les filles qui sont élevées dans ce type de contexte, en tout cas moi, quand je les rencontre en tant qu'adulte, j'ai souvent le sentiment qu'elles ont tendance à se faire du mal, qu'elles sont anorexiques. La leçon qu'elles ont retenue, c'est il ne faut surtout pas exiger trop pour soi, ni faire trop pour soi, soyez moins. En tout cas, je dois dire que moi, je n'ai pas appris ça dans mon propre foyer. C'est une forme de maternité différente. Je voulais montrer à la fois ses aspects magnifiques et puis les problèmes aussi que ça pose. Ma mère n'est pas exactement comme la mère du livre. Ma mère aime beaucoup plus s'amuser. C'est une personne qui aime faire la fête, qui aime passer du bon temps. Elle n'est pas aussi sérieuse du tout. Mais c'était en tout cas quelqu'un qui se voyait comme au centre de sa propre vie en tant que sujet. Et je pense que c'est intéressant Même si, bien sûr, ça rend aussi vulnérable. Si vous comportez dans le monde comme si vous n'avez besoin de personne, parfois les gens ne viennent pas vous aider. Et il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, même si on est fort, la maladie, le vieillissement, la solitude. Mais je ne voulais pas du tout suggérer que cette façon d'être mère n'était pas puissante ou n'était pas intéressante en elle, parce que je pense qu'elle peut l'être.
Zadie Smith, il y a pour le lecteur l'impression qu'il y a un deuxième livre dans votre livre. C'est toute la partie qui se déroule en Afrique, puisque votre narratrice va trouver un travail, elle va devenir la secrétaire, la femme à tout faire d'une pop star qui va l'emmener en Afrique, où la pop star en question, qui s'appelle Aimée, veut faire le bien, y compris à l'inverse des attentes des gens qui vivent là-bas sur place. Ce sont des pages très ironique, très féroce, très réel, sur le charity business. Je sais que vous, vous êtes rendu avec Oxfam, une ONG, en Afrique, et vous avez pu constater vous-même que les meilleurs sentiments du monde aboutissent parfois à des résultats complètement à l'inverse de ce qu'on voulait faire.
En dehors de mon roman, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit les meilleures intentions du monde. Ce qui m'intéressait en écrivant Swing Time, c'était cette affaire des Panama Papers. Une des choses qui ont été révélées par les Panama Papers et que les gens qui s'intéressent à l'Afrique comme moi savaient déjà, c'est qu'une très grande quantité de trafic d'argent illégal, d'affaires illégales, passe par l'Afrique. Des affaires menées par les Européens, par les Américains, qui consistent à prélever les matériaux bruts dans les pays africains et à ne rien rendre en retour. Nos relations sont fondamentalement perverties avec les pays africains. Et les efforts humanitaires, en fait, depuis 200 ans, sont à mes yeux une façon de blanchir nos consciences. Ce qui doit changer, c'est la relation légale, le droit entre les capitales européennes et américaines et les pays africains. Ce qui se passe est évidemment immoral, mais c'est surtout illégal. Et l'attitude qu'on a toujours en Europe, qui est de dire « c'est vraiment bizarre, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique ? On a tellement de bonnes intentions, on apporte tellement d'aide, et pourtant ils sont si corrompus, ils ne parviennent pas à se sortir de là tout seuls. » C'est extrêmement choquant, cette façon de représenter de façon erronée nos véritables relations économiques avec ce continent. Et donc quand on me parle de bonnes intentions, je ne veux vraiment pas écouter ça, parce que c'est une façon de ne pas reconnaître les véritables relations économiques qui existent entre l'Occident, le soi-disant Occident, le soi-disant Sud.
Dans ce livre, Zadie Smith, il y a effectivement une réflexion sur le pouvoir. Alors, vous dites le pouvoir de la naissance, le pouvoir de la célébrité, donc le pouvoir de l'argent. Quand on a ça, on le voit bien, les personnages peuvent se permettre absolument tout.
J'aurais eu envie d'avoir écrit un simple roman existentialiste très beau, très épuré sur l'amitié entre deux petites filles. J'aurais adoré faire ça. Mais l'autre moitié de l'équation qui parle de pouvoir, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas le passer à côté. Le problème avec ce genre de roman, le roman existentialiste que j'imagine en tout cas dans la version française, c'est que c'est souvent très écrit, il est question d'ironie. Parfois, le débat, c'est compliqué aussi dedans. Mais moi, j'ai grandi en lisant plutôt Dickens. Et je m'inspire du sentiment d'urgence qu'il avait de vouloir exprimer ses relations de pouvoir. C'était délibéré de sa part, la façon dont il construisait les romans de façon artificielle pour montrer au lecteur anglais comment les relations de pouvoir fonctionnaient réellement dans le pays. Et c'était vraiment ce que je voulais faire dans la deuxième partie de Swing Time. Et en vivant à New York en particulier et en rencontrant parfois ce genre de personnes des personnes extraordinairement riches, qui en général ne payent pas d'impôts nulle part, qui se considèrent quelque part comme les législateurs tacites de l'ensemble du monde et pensent qu'ils ont raison de décider de quelle manière il faut apporter plus d'eau au Bangladesh ou changer le système d'éducation à New York. Je trouve que ce présupposé que l'argent signifie le pouvoir et aussi des capacités à légiférer, je trouve ça assez obscène en fait. Et je pense que le roman peut être un endroit où on peut mettre en évidence ce genre de comportement.
Alors, vous dites qu'effectivement, vous n'avez pas réussi, Zadie Smith, à écrire un livre uniquement sur l'enfance. En même temps, quand on referme ce gros livre, on se dit que vous avez démontré quelque chose, c'est qu'au fond, même en devenant adulte, et on peut se demander ce que ça peut vouloir dire, devenir adulte, on est juste un enfant tel qu'on a été structuré dans sa 10e, 12e année, avec ses espoirs déçus, ses ambitions. On reste cet enfant-là, habillé en adulte.
J'ai rencontré très peu d'adultes dans ma vie. Je pense qu'en fait, quand on en rencontre un, on le sait. Ils sont extraordinaires. Mais ils ne sont pas très courants. Je ne prétends pas d'ailleurs être une adulte moi-même. Actuellement, aux États-Unis, notre président est si manifestement puéril. C'est la chose que l'on voit tout de suite chez lui. Il n'a pas besoin d'être un génie. J'imagine que cet enfant a beaucoup souffert à cause de son père, et j'en suis navrée, ça se voit. Mais nous vivons tous dans son traumatisme et nous en subissons tous les conséquences. Un garçon donc que son père méprisait, j'imagine, devait humilier, ridiculiser. Ce genre de traumatisme ne disparaît pas comme ça. Et sa forme la plus grave, la plus empoisonnante et pernicieuse, c'est quand elle s'exprime à l'extérieur avec quelqu'un comme Trump qui n'a aucune réflexion sur lui-même. C'est extraordinaire. Tout est repoussé vers l'extérieur chez lui. Et quand on externalise comme ça son enfance, cette enfance éternelle, c'est extrêmement dangereux. Je pense que tous les auteurs que je connais, que j'ai rencontrés, sont un peu enfantins d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. En général, c'est une mauvaise nouvelle pour leur mari, leur femme ou leurs enfants. Il y a sans doute quelque chose de positif dans le fait que ces écrivains qui sont restés coincés dans leur enfance, quelque part, s'en souviennent avec une forme de lucidité. Quand je lis Virginia Woolf ou Annie Ernaux ou Nabokov, je lis quelqu'un dont l'enfance est aussi proche que si elle l'était simplement posée sur leur épaule. En tant que lectrice, j'ai toujours aimé ça chez les écrivains, même si je ne pense pas qu'en tant que personne, ce soit quelque chose de particulièrement formidable.
Mais c'est pour ça qu'en tant que lectrice, je vous remercie, Zadie Smith, parce que c'est vrai que ce qui se passe entre ces deux enfants, ça rappelle à toutes les lectrices beaucoup de choses de leur propre enfance. Je rappelle que ce très beau livre qui s'appelle Swing Time, traduit aux éditions Gallimard par Emmanuel et Philippe Aronson, vient de sortir et qu'on vous le recommande très vivement. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui et merci à Marguerite Capel qui nous a permis de nous comprendre. Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.